Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Qui n'a pas rêvé un jour de partir ? Pour fuir, fuir son présent, fuir cette grisaille, fuir une vie qui ne vous convient pas. Partir, se laisser oublier, se faire oublier. Partir au soleil, sur une plage de sable fin, avec des cocotiers, des palmiers. Partir pour mieux se reconstruire, partir pour se trouver ou se retrouver. Vous savez, cette petite voix intérieure qui vous dit « vas-y, pars ». Et puis on ne le fait pas parce que les circonstances ne s'y prêtent pas ou simplement parce que la vie que vous menez vous convient. Le livre que je vous propose aujourd'hui vous raconte cette forme d'échappée belle, dirais-je, cette fuite, cette envie d'une autre vie, oublier son passé. Pour nous raconter cette histoire qui finalement, je ne dirais pas que c'est une belle histoire, c'est une histoire étrange et curieuse, j'ai le plaisir, l'honneur et l'avantage de d'accueillir Nico Takian. Bonjour.
Bonjour, je suis ravie d'être avec vous.
Merci, merci d'avoir accepté mon invitation pour ces deux ailes, délivrez-vous, pour votre dernier ouvrage aux éditions Calman Lévy. Alors, on va un petit peu parler de vous, mais pour les adeptes des séries, notamment sur France 2, vous n'êtes peut-être pas un inconnu, puisque vous avez collaboré entre autres avec Franck Tillier, qui est un auteur de polar, pour Alex Hugo, qui était une série sur France 2, entre autres. Et puis également, vous avez eu de nombreux prix, notamment en 2015 pour l'un de vos romans au Festival de Cognac. Et puis également, vos deux autres ouvrages 2020-2021 pour Avalanche et Solitude, je crois, qui ont également remporté un grand succès. Voilà. J'espère que je n'ai rien oublié.
Non, non, c'est parfait. Le résumé y est.
Voilà. Alors, ce roman dont j'ai oublié le titre, voilà autre chose, voilà.
Respire.
Voilà, respire, pardon, excusez-moi. Voilà, j'étais tellement plongée dans vos anciens romans que j'en ai oublié le titre. Alors, respire. Alors, c'est eh bien votre héros, Johan, qui se réveille sur une île de sable fin au soleil. Il a demandé à une société de changer de vie, de partir, qu'on l'oublie, se créer une nouvelle identité. Mais au paradis, on pense que les choses sont toujours simples, et puis il va un petit peu se promener dans cette île, l'île de la Pointe Noire. Il y a très peu d'habitants sur cette île. Les maisons, les magasins qui sont un petit peu délabrés, mais dénotent malgré tout une vie qu'il y a pu y avoir. Et quand on cherche la vérité au paradis, parce qu'il y a des choses qui lui semblent bizarres, eh bien les choses n'ont pas forcément bien tourné. Alors, on va tourner autour du pot parce qu'on ne peut pas raconter, on va laisser le soin aux éditrices, auditeurs de découvrir cela. Mais moi, je voudrais savoir, je sais qu'il y a beaucoup de lectures qui vous ont inspiré, mais je me dis, ça a été un rêve ou un cauchemar pour écrire ce livre, Nico Takian ?
Généralement, pour écrire des romans, c'est toujours une forme d'évasion et donc d'oxygène. Hein. Donc,
oui.
Si c'est un cauchemar, c'est vraiment compliqué de le faire. Et puis, je dirais même que le résultat ne serait pas super satisfaisant parce que on a vraiment besoin de s'y investir à plein temps.
Bien sûr.
Après, c'est vrai que ce roman Respire, il a été écrit dans une période particulière qui est celle que nous avons tous traversée depuis des ans.
Oui.
Donc des confinements successifs avec des couvre-feux et ce genre de choses. Sachant que moi j'habite en région parisienne, donc on n'a pas été privé de ça du tout. Donc du coup, il s'est développé aussi avec l'envie d'échapper à une bulle qui peut ressembler à l'envie du personnage principal de disparaître et de changer de vie. Donc c'est un peu le moteur, effectivement, en tout cas un des moteurs du roman qui m'a guidé, quoi. Cette idée de changer d'air, de changer de vie, de rupture aussi avec des habitudes.
Ouais.
Voilà.
Et vous dites aussi, je vous ai un petit peu lu, j'ai un petit peu regardé ce que vous disiez ou écriviez, cette petite voix de vie intérieure qui est toujours là, qui vous propose des choses, qui vous incite parfois. Moi, j'ai envie de dire que cette petite voix intérieure, parfois, elle est humanisée par un petit lutin qu'on a parfois sur l'épaule.
Oui, bah, pour moi, l'écriture, c'est très psychanalytique. Donc,
oui.
Je suis très sensible et très à l'écoute de la voix dont vous parlez. C'est-à-dire que, en fait, chacun de mes romans vraiment reflète l'état de mes angoisses et de mes interrogations au moment où je l'écris, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai du mal à relire mes anciens romans, parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment tourné la page de ça, quoi. Donc Respire, qui date donc de l'année dernière, c'était vraiment, je pense, une interrogation sur ce qu'était le bonheur, est-ce qu'on peut rechercher le bonheur ailleurs, est-ce qu'on serait plus heureux si on avait une autre vie, un autre... je pense que c'est une interrogation qui a traversé l'esprit de beaucoup de Français, de gens dans le monde, au même moment, quoi, parce que cette histoire de Covid a créé, en fait... les circonstances qui font qu'on prend du recul sur sa vie et que du coup on se demande, est-ce qu'on ne devrait pas déménager, aller vivre à la campagne, est-ce qu'on ne devrait pas changer de boulot, est-ce qu'on ne devrait pas arrêter notre couple, est-ce qu'on ne devrait pas se marier, est-ce qu'on devrait... enfin des grands changements en fait qui ont émergé un peu partout. Respire est un peu quelque chose qui est né dans cette ambiance là.
En fin de compte, on pourrait dire que Johan, c'est un peu de chacun de nous.
Bah, en tout cas, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, a l'impression qu'il étouffe suffisamment pour avoir à se réinventer d'une manière ou d'une autre. Lui, c'est enfin, la rupture totale avec sa vie. Mais, nous autres, c'est peut-être de manière moins dramatique.
Moins radicale. Alors, on pourrait se dire, bon ben voilà, l'histoire est là, Johan a décidé de changer de vie, il y est arrivé puisqu'il est sur cette île. Néanmoins, au travers de ce qui va se passer, des réflexions qu'il va se faire, des choses qu'il cherche et qu'il aurait peut-être pas dû chercher, en fait c'est aussi, j'ai eu l'impression, votre forme de réflexion que vous nous incitiez aussi à faire, c'est-à-dire que les choses ne paraissent jamais blanches ou noires, ou ne le sont jamais, elles sont toujours un peu gris pâle ou entre les deux, et que devant toute incertitude ou devant toute chose qui semble simple, finalement il y a toujours des ramifications. C'est un petit peu comme ça, un peu, que j'ai continué le cheminement de ce livre et de cette aventure.
Bah, oui, parce que je pense que, d'ailleurs, si on reprend l'analogie avec les gens qui ont décidé, par exemple, de quitter la ville pour aller vivre à la campagne.
La campagne, oui.
Une fois qu'on est sur place, on se rend compte que vivre à la campagne, c'est pas aussi simple que l'idée qu'on s'en faisait. Parce que nos amis sont plus sur place, nos habitudes sont plus les mêmes, il fait pas la même température, c'est pas le même climat. Tout change. Et en fait, c'est vrai que Johan, dans un premier temps, qui se retrouve sur effectivement une île qui paraît être idyllique et qui est idyllique au niveau du cadre, qui ressemble un peu à l'image d'Épinal qu'on peut avoir d'un paradis. Petit à petit, il va voir déjà le fait que ça ne dure qu'un temps, en fait, les attraits purement matériels de l'endroit où il se trouve. Et puis surtout, il va se rendre compte d'un truc qui est beaucoup plus psychologique et qui est le moteur aussi du roman, qui est que, en fait, quand on a des quand on essaie de fuir ses problèmes, souvent
ils nous rattrapent.
Les problèmes nous suivent. Donc pourquoi? Parce qu'ils ne se situent pas à l'extérieur de nous, ils sont en nous.
Bien sûr.
On peut pas vraiment se fuir soi-même.
Tout à fait. Et alors, justement, les affres qu'il va raconter, hein, je dis aux auditrices, auditeurs, on tourne autour des choses parce que rien de tel que de prendre le livre et de l'acheter et de le lire, bien évidemment. Il va s'apercevoir, il y a quelques habitants, on disait les maisons sont un peu délabrées, il y avait des magasins, des échoppes, il semble qu'il y a eu une vie. Et alors, en fait, votre livre tout au long de sa lecture m'a obligé, enfin on m'a obligé, mon cerveau a voulu faire des paraboles. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un nouvel événement, je l'associais à autre chose. Et alors par exemple, je me suis fondue dans la pensée de Johan, donc au fur et à mesure des choses, il s'aperçoit que c'est pas si simple. Et donc ces maisons isolées, un peu délabrées, les magasins, pour moi, je l'ai associé un petit peu au moral et à l'humeur de Johan au fur et à mesure qu'il découvrait les choses. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je vois. Alors, c'est juste parce que, de toute manière, il y a un parallèle entre sa psychologie et ce qui se passe dans le livre.
Oui.
Mais, en fait, c'est aussi une réalité. C'est-à-dire que, sans raconter trop du livre, Johan arrive sur une île qui a une vraie mythologie, une oui. vraie histoire. Mm. Cette histoire, comme des ruines, hein, oui. comme quand on se promène dans un lieu antique, au milieu des ruines, bah, si on connaît l'histoire des ruines,
oui.
ça prend une autre dimension que si on voit juste des ruines. Et lui, en fait, se rend compte que ce lieu, il n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il a une histoire, et cette histoire, il va la prendre au fur et à mesure du récit. Et comprendre le parallèle qu'il y a entre sa démarche et la démarche globale des gens qui ont pu être sur cette île.
Mmh. Mmh. Alors, justement, ces ruines, quelque part aussi, moi j'ai associé ça aux ruines de sa vie passée. Vous voyez, c'est-à-dire on laisse les ruines, on construit quelque chose de nouveau. Et mais comme on disait tout à l'heure, bah, quand on fuit ces problèmes, quelque part ils sont en nous, donc ils nous suivent. Donc en fait, ces ruines, un peu, c'est les problèmes qu'il a pu avoir aussi dans sa vie passée. Et ces problèmes bah, se retrouvent sous cette forme de ruines et de maisons ou de magasins un peu délabrés. Voilà.
Complètement. Ouais, il y a un vrai parallèle avec la psychologie du personnage, c'est clair.
Alors, moi, ce qui m'a aussi étonné, donc il y a plein de reports par rapport à des lectures, des choses qui vous ont marqué, et notamment du coup j'en ai cherché un qui est l'Atlas des îles abandonnées de Judith Lamansky, je crois, j'ai oublié son nom. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, toutes ces références, je me suis rendu compte qu'elles étaient importantes pour vous parce qu'elles avaient conduit à ce cheminement. Alors, je me suis dit, mais le scénario me parle, j'ai déjà vu ça quelque part. Et puis, à chaque fois que je me disais ça, hop, il y a autre chose qui faisait que ça m'emmenait ailleurs.
Oui. Oui, oui, bah, ce roman, il s'est construit, aussi avec effectivement un certain nombre de lectures en tête qui sont intégrées même au récit hein, parce que
oui, tout à fait.
Dont, en fait qui sont directement des objets ou des personnages
oui.
ou des,
complètement
du récit. Et donc après tout le jeu c'est justement de que ça soit comme des indices en fait, ça vous met sur la piste
oui.
Pour peu qu'on les ait lus quoi.
Oui.
Qu'on s'y intéresse et qu'on ait fait des recherches. Il y a déjà plein de lecteurs qui me disent « Ah, mais quand j'ai vu le titre de ce livre, je suis allé sur Internet et je me suis rendu compte que ça existait vraiment.
Bah, » oui, bah, oui.
Je pense à un livre en particulier qui est un livre peu connu, quoi, donc les gens sont allés vérifier. Mais en fait, oui, ils sont intégrés dans le récit, sauf que, effectivement, ce qui est intéressant pour moi, c'est de surprendre, donc de pas que les parallèles soient pas trop évidents et surtout qu'il y ait des surprises par rapport à ce qui se passe pour pas qu'on puisse se douter de la suite des événements parce
bien
que
sûr.
Ça reste un thriller dans lequel logiquement une fois qu'on l'a ouvert on doit plus le refermer jusqu'à la fin.
Oui, ça a été le cas, je vous rassure, ça a été le cas. Eh bien, écoutez, en attendant de retourner sur cette île de la Pointe-Noire, je vous propose, comme plage de sable fin et soleil chaud, une petite pause musicale. Et nous retrouvons tout de suite après. Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous avec Nico Takian pour son dernier roman Respire aux éditions Calman Levy. Alors, on disait avant cette pause musicale, on parlait donc des différents livres qui étaient inclus dans votre roman et qui vous avaient plus ou moins aidé, guidé ou inspiré. Et notamment, une chose, il y a Moby Dick dans cette inspiration.
Totalement. Alors, Moby Dick, c'est vraiment... en fait, toute cette démarche, je dirais, d'intégrer à mon travail le travail d'autres romanciers, elle est née il y a quelques romans... parce que je pense que plus je prends de l'âge, en fait, parce que maintenant ça fait presque 20 ans que j'écris des histoires, en fait,
ouais.
Plus je me rends compte à quel point il y a une filiation vraiment entre les écrivains, c'est-à-dire que, par exemple, Moby Dick, c'est un roman que j'avais dû lire quand j'étais en 5e ou en 4e,
ouais.
Parce que c'était sur les listes scolaires de romans qu'il fallait lire.
Mm-hmm.
J'ai dû avoir un mal de chien à lire à l'époque.
Mm-hmm.
Et aujourd'hui, quand je le relis, je me rends compte à quel point il y a des thèmes à l'intérieur de ce roman qui me touchent et à quel point, finalement, j'ai un confrère qui devait me ressembler à un moment, en tout cas, dans ses angoisses et dans ses voies de réflexion.
Mm-hmm.
Et du coup, ça me touche beaucoup parce que, voilà, je ressens cette filiation qu'il peut y avoir avec certains auteurs et j'ai envie de leur rendre hommage, mais aussi de m'inscrire dans le mouvement de réflexion autour de ces thèmes, voilà, sans aucune prétention stylistique ni de parce que là je parle d'œuvres majeures, donc mais en tout cas il y a cette envie peut-être un peu plus littéraire que ce que j'ai pu faire au début de ma carrière où j'étais dans mes histoires et c'était simplement l'histoire. Là, j'ai envie aussi de pousser la réflexion avec ces romans.
Oui.
Et donc, Moby Dick, effectivement, qui est un livre très particulier, qui raconte la quête d'un homme, jusqu'à la mort, de pourchasser une baleine blanche,
qui
lui a arraché une jambe, et en fait, c'est la souffrance d'un homme qui entraîne tout le monde vers sa perte parce qu'en fait il est tellement pris par cette vengeance qu'il entraîne tout le monde dans sa perte et j'avais vraiment envie d'utiliser ce personnage et de le mettre au centre de mon récit aussi. Donc je l'ai fait, voilà.
Alors j'ai aussi bon, comme je lis pas mal, vous vous en doutez, de par l'émission, donc j'ai parfois comme ça des flashs au niveau des lectures, du rapport à l'auteur ou du rapport au personnage, ou les deux, ou même ce que m'inspire l'auteur. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, Nico Takian, c'est un personnage multiple. Ses romans, il les a écrits au fur et à mesure d'événements ou de choses qui arrivaient, donc il le transcrivait, comme vous le disiez tout à l'heure, un peu psychanalytique. Et vous m'avez fait penser à Tolkien, au Seigneur des Anneaux.
C'est gentil, ça.
Je me suis dit, mais en fait, il est multiple. Alors, on sait que Tolkien, c'est un botaniste, un écrivain, un créateur, un créatif, enfin, bon, bref. Et dans le Seigneur des Anneaux, il y a l'aventure, il y a le bien, le mal, on pense que tout arrive, il y a ces paysages magnifiques, et puis bon. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu à un moment donné envie de vous identifier avec Tolkien.
Bah, en tout cas, ce qui est certain, c'est que en tant que grand fan de Tolkien, et moi,
je m'en doutais.
Je suis la génération des années 80 qui a grandi avec les jeux de rôle,
ouais.
Que je pratique encore d'ailleurs.
Ouais.
Et Tolkien, c'était un peu le livre de chevet de l'adolescent qui voulait jouer à Donjons et Dragons. C'est un des créateurs, c'est en tout cas une des personnes qui a remis au goût du jour les grands mythes à travers un récit original. Il a inspiré énormément d'œuvres derrière et tout un pan même de littérature, toute la fantaisie moderne
complètement
inspirée par Tolkien. Donc,
oui.
Et c'est vrai que moi, ce que j'ai toujours aimé dans Tolkien, c'est le côté romanesque.
Oui, complètement.
Ce que vous disiez. rêviez, c'est-à-dire le côté voyage.
Oui.
En fait, d'ailleurs, tout le Seigneur des Anneaux fait embarquer un petit monsieur
oui.
qui est un hobbit dans un grand voyage.
Oui, donc, c'est ça. C'est
donc,
ça.
Effectivement, cette référence-là, elle est juste. Alors, moi, je ne suis pas aussi, connaissant aussi un peu le personnage, je ne suis pas aussi cultivé, aussi inscrit dans un milieu universitaire que Tolkien, puisque
ouais.
lui,
oui.
C'était vraiment un intellectuel.
Oui, un homme complet à tout niveau, tout à fait.
Voilà, moi je pense que j'ai une culture qui est beaucoup plus reliée à l'image et aussi beaucoup à l'imaginaire, à la narration, parce que à travers les jeux de rôle depuis tout petit, j'ai des enfants qui ont 11 ans, à leur âge j'ai commencé les jeux de rôle, donc en fait à 11 ans je commençais à raconter des histoires à mes petits camarades autour de table, donc je me revendique vraiment comme étant un conteur.
Oui, ce qui est vrai, ce qui est le cas.
Et je pense que c'est plus ce qui me définit, mais bon, Tolkien était un conteur aussi.
Oui, un grand conteur, oui. Oui. Mais pour Johan, pour en revenir à votre héros et à l'île de la Pointe Noire dans Respire, ça m'a fait penser, mais je ne sais pas pourquoi, votre livre m'a inspiré tout un tas d'images, de flashs, d'idées, de paraboles. C'est amusant. Et du coup, je notais à chaque fois. Et à un moment donné aussi, j'ai pensé à un échiquier. C'est-à-dire que Johan, il est sur cet échiquier et il y a bon ce côté bien. Pof, il est le roi, la reine ou le cavalier ou qui vous voulez, et puis il va bouger de case en case, et c'est là qu'il va découvrir au fur et à mesure les affres un petit peu de cette île, le pourquoi, le comment, enfin bref, ce qui va s'y passer, il va chercher, en cherchant, il va finir par trouver, mais pas forcément des choses comme... Vous voyez, ça m'a fait penser à un grand échiquier aussi, un peu le jeu de la vie.
Oui, alors c'est sans doute parce que aussi... ce que vous appelez un échiquier, moi je le mentalise beaucoup plus comme étant un jeu de piste.
Oui, aussi, oui, bien sûr. Oui.
Et d'ailleurs, même par rapport à la référence à Tolkien, le roman s'ouvre sur une carte, comme le Seigneur des Anneaux ou Bilbo, et cette carte qui est aussi une carte qu'on donne à Johan lorsqu'il arrive sur l'île au tout début. Une des premières missions qu'il va se donner lui-même, c'est d'explorer en fait cette île sur laquelle il est devenu désormais un habitant pour un temps déterminé. Et donc cette exploration, elle se fait effectivement, alors pour revenir aux échecs, on peut imaginer comme sur un plateau d'échecs, c'est-à-dire qu'il quadrille d'une certaine manière.
Oui, c'est ça.
On a la carte en tant que lecteur, on peut suivre en fait ses pérégrinations. Et effectivement, il va de découverte en découverte, il va de case en case, il va de lieu en lieu, et ça va être il y a une partie du roman d'exploration qui dure quelques chapitres, une dizaine de chapitres au début du livre, où on découvre un peu ce lieu, qui est aussi un jeu de piste, mais qui pourrait être aussi la mise en place, en tout cas, du plateau du jeu d'échecs. Ouais.
Alors si on devait attribuer une morale didactique comme ça, moi j'en ai pensé à une, alors c'est pas la morale selon Molière, mais la morale selon Nicotachian, à la fin on aurait pu mettre, enfin c'est ce que moi j'aurais pu mettre à la fin de votre roman si on m'avait demandé de mettre un petit mot, j'aurais mis « La vie est une chasse au trésor ».
Ah, c'est joli ça. C'est joli. Mais c'est plus une maxime qu'une morale.
Peut-être, une maxime, peut-être, oui. Peut-être. Oui, oui. Oui.
Non, la morale, c'est quand même de ne pas être trop moralisateur dans
c'est
le
vrai.
Roman, mais en tout cas, à la question « L'herbe est-elle plus verte ailleurs ?» A priori, j'ai l'air de répondre non.
Oui.
Mais après je veux dire, en tout cas pour mon personnage, pas forcément. Mais, mais voilà.
Mais voilà, c'est ce que je retiens. En fait, j'ai lu deux livres de vous et je me suis demandé si cette phrase qui était née de mon imaginaire, parce que je suis une grande rêveuse et j'ai un imaginaire assez fourni et débordant. Ce qui m'a permis de rentrer complètement dans votre monde finalement, et il y a une forme de connexion qui s'est faite à chaque fois. Je me suis dit finalement la vie est une chasse au trésor, ça pouvait s'accommoder à tous vos romans et aux personnages que vous
êtes. C'est sûr, c'est que moi j'ai un côté très ludique dans la vie, je pense dans les choses que j'aime dans la vie, mais aussi dans l'écriture.
Oui.
J'aime bien que les lecteurs et que les gens s'amuse en lisant mes livres. Justement, vous parliez de liens que vous faisiez, j'aime bien en fait faire ça, j'aime bien placer plein de petites choses pour que les gens soient proactifs dans la lecture de livres, plus que juste à recevoir une histoire.
Oui, tout à fait. Alors, quels sont vos prochains projets? Que vous inspire cette continuité du Covid, des confinements, de cette liberté non libre?
Alors, bon, c'est délicat d'en parler tout de suite parce que je suis justement en train de, par rapport à mes romans, en tout cas, je suis justement en train de commencer à écrire mon prochain roman, mais c'est compliqué d'en parler parce que moi-même, je ne sais pas exactement où je vais aller.
Oui, d'accord.
Mais en tout cas, la chose que je peux dire, c'est que ça se passera. Je peux déjà parler du lieu parce que je suis allé sur place.
Ah, très bien.
Donc ça va se passer en Bretagne.
Ah, c'est un lieu pour vos histoires et pour le personnage et l'homme que vous êtes. Pour moi, c'est un lieu idéal. Hein.
Oui, bah oui. Écoutez, en tout cas, moi, j'adore.
Avec les forêts, les forêts mythiques, les folklores, les lieux un petit peu comme ça, mystérieux, mystiques, les dolmens, tout ça. Ah oui, ça, c'est parfait.
Oui, ça va être un bon terrain de jeu. Après, ça va être très surprenant sur la forme, vous verrez, ce sera la surprise. Mais en tout cas, voilà, c'est la Bretagne. Donc, je me suis beaucoup documenté parce qu'il ne faut pas déconner avec les Bretons.
Non, faut pas rigoler. Ouais. Non.
Faut pas que je mette un dolmen à 5 km de là où sinon je vais avoir des problèmes.
Ah, vous allez avoir de gros. Et c'est où en Bretagne? Vous pouvez le dire?
Dans les monts d'Arrée, donc dans le Finistère.
D'accord, c'est joli par là. Ouais, c'est joli. Ouais, alors surtout ne déplacez pas un menhir s'il est au mauvais endroit, parce qu'effectivement, ça va pas faire plaisir au bigouden. En tout cas, ça a été un vrai plaisir de parler avec vous. J'ai un peu regardé quelques épisodes d'Alex Hugo et puis j'ai lu deux romans de votre part et j'étais contente d'avoir cette opportunité de pouvoir enfin vous rencontrer et parler avec vous de ce roman Respire aux éditions Calme et Navi. Je vous remercie infiniment. J'espère vous retrouver en Bretagne pour un prochain roman dans quelques mois.
Ouais, il faut me laisser un peu de temps.
D'accord. Je vous laisse respirer.
Et voilà, c'est ça.
Ça marche. Merci Nico Tacquian. Merci et à une prochaine fois. Et prenez soin de vous. Quant à nous, nous nous retrouvons pour une prochaine aventure littéraire. En attendant, je vous dis à très bientôt et bonne lecture. Au revoir.